Audiolib présente Rouge Karma. De Jean-Christophe Granger. Lu par Mathieu Buscato. Première partie. Les révoltés. Chapitre 1. Hervé Jouhandeau émergea de l'épais brouillard, pavé en main, à la manière d'un discobol. Dans ces moments-là, se comparer aux athlètes de l'Antiquité ne lui faisait pas peur. Les yeux brouillés de larmes, il vit à moins de 100 mètres le mur des CRS. Casques à cimier, un père ceinturé, bouclier ressemblant à s'y méprendre à des couvercles de poubelle. S'arrêtant parmi les nappes de gaz lacrymogène, il se cambra, arma son bras, puis plaça le pavé dans le creux de son épaule. « Un héros du stade, on vous dit.
« Vas-y, Hervé ! Fous-leur-y sur la gueule ! Vise aux yeux !»
Seul, sur la chaussée jonchée de détritus, le jeune homme resplendissait. Il était l'héritier d'une longue série d'insurrections. 1789, 1832, 1848, la Commune. Les Français avaient la révolte dans le sang. Leur histoire s'écrivait sous le signe de la revendication et de la violence, et Hervé était leur nouveau héros. Il déroula son bras et poussa son geste le plus loin possible. « Dans la gueule, mes canards !» Il se sentait aussi léger que son pavé, aussi puissant que les hurrahs dans son dos, aussi menaçant que la rumeur qui saturait la rue de Lyon. Une seconde plus tard, il crut discerner le claquement de son projectile sur un casque. Il avait visé juste. Un tir lobé qui avait dépassé les premiers rangs pour s'écraser plus loin sur la tête d'un flic anonyme. La violence sans rime ni raison. L'obscure satisfaction de tout casser comme ça pour rien. Et la jubilation infantile d'avoir fait mouche, comme au Chamboultou. Acclamation derrière lui. Poils à la redresse. Deux mois auparavant, en mars 1968, l'artiste new-yorkais Andy Warhol avait écrit « À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. » Pas de doute. Son quart d'heure était arrivé. Il demeura ainsi, immobile, une fraction de seconde. L'air était suffocant, chargé de vapeurs toxiques. Sur le sol, des pavés déchaussés, des débris enflammés, des flaques d'eau, tout, absolument tout, avait des airs de fin du monde. « This is the end, beautiful friend. » La riposte ne tarda pas. Sous les plopes des tirs-patates et le sifflement des grenades, Hervé tourna les talons et rejoignit au trot l'amoncellement de gravats, de cajots, de grilles d'arbres qui barraient la rue. Il escalada le monticule, s'écorchant un genou au passage, dégringola de l'autre côté. Applaudissements. Sous la couche de pull qu'il avait superposée pour parer aux coups de matraque, il crevait de chaud. Exaltation. Il n'avait plus les idées très claires. Où était-il au juste? Quel jour était-on? Depuis le début du mois, les pages du calendrier brûlaient, s'envolant en brasier léger au fil des manifs, des grèves, des AG. Difficile de s'y retrouver. Ah oui, en ce 24 mai 1968, un nouveau rassemblement avait été organisé, gare de Lyon, à 19h. On ne savait pas trop par qui. Les gars du 22 mars, sans doute. L'UNEF, bien sûr. Les ML, marxistes-léninistes, aussi. Le prétexte du jour était l'interdiction de séjour de Daniel Cohn-Bendit, qui, après des débuts fracassants à la tête de l'insurrection, était parti se ressourcer en Allemagne. On racontait que son voyage avait été financé par Paris Match en échange de quelques photos. Comprenne qui pourra. Les autorités en avaient profité pour le déclarer persona non grata sur le territoire français. Très mauvaise idée. Ce coup bas avait remis de l'huile sur le feu. On avait décidé aussitôt une nouvelle manif, avec bataillon d'ouvriers et célébrités du cinéma en prime, pour réclamer son retour en France. Mais pourquoi gare de Lyon? Mystère. Coup du sang.